Chapitre 3, suite. Rien n'était mieux fait pour resserrer l'amour de Christophe pour Ada que la façon dont les autres le jugeaient. Dès le lendemain de leur première rencontre, tout le quartier était informé. Ada ne faisait rien pour cacher l'aventure, elle tenait à se faire honneur de sa conquête. Christophe eût préféré plus de discrétion, mais il se sentait poursuivi par la curiosité des gens, et comme il ne voulait pas avoir l'air de fuir devant elle, il s'affichait avec Ada. La petite ville jasait. Les collègues de Christophe à l'orchestre lui faisaient des compliments goguenards, auxquels il ne répondait pas, parce qu'il n'admettait point qu'on se mêlât de ses affaires. Au château, son manque de tenue était blâmé. La bourgeoisie jugeait sa conduite avec sévérité. Il perdit ses leçons de musique dans certaines familles. Chez d'autres, les mères se crurent obligées d'assister dorénavant à la répétition de leurs filles, l'air soupçonneux, comme si Christophe avait eu l'intention d'enlever ses précieuses personnes. Les demoiselles étaient censées tout ignorer. Naturellement, elles savaient tout. Et tout en battant froid à Christophe pour son manque de goût, elles mouraient d'envie d'avoir plus de détails. Il n'y avait que dans le petit commerce et chez les employés de magasin que Christophe était populaire. Mais il ne le resta point. Il était aussi agacé par l'approbation des uns que par le blâme des autres. Et ne pouvant rien contre le blâme, il s'arrangea de façon à ne pas garder l'approbation, ce qui n'était pas très difficile. Il était indigné de l'indiscrétion générale. Les plus excités contre lui étaient Justus Euler et la famille Vogel. L'inconduite de Christophe leur semblait un outrage personnel. Il n'avait pourtant fondé sur lui aucun projet sérieux. Il se défiait, Madame Vogel surtout, de ses caractères d'artiste. Mais comme ils avaient l'esprit naturellement chagrin, et toujours portés à croire qu'ils étaient persécutés par le sort, ils se persuadèrent qu'ils tenaient au mariage de Christophe avec Rosa dès qu'ils furent bien certains que ce mariage n'aurait pas lieu. Ils virent là une marque de leur malchance accoutumée. La logique eût voulu, si la fatalité était responsable de leur mécompte, que Christophe ne le fût pas. Mais la logique des Vogel était celle qui leur permettait de trouver le plus de raisons de se plaindre. Ils jugèrent donc que si Christophe se conduisait mal, ce n'était pas seulement pour son plaisir, mais pour les offenser. Ils étaient d'ailleurs scandalisés. Très religieux, moraux, pleins de vertus familiales, ils étaient de ceux pour qui le péché de la chair est le plus honteux de tous, le plus grave, presque le seul, parce qu'il est le seul redoutable. Il est trop évident que des gens comme il faut ne seront jamais tentés de voler ni de tuer. Aussi Christophe leur parut foncièrement malhonnête, et ils changèrent de façon à son égard. Ils lui faisaient une mine glaciale, et se détournaient de lui sur son passage. Christophe, qui ne tenait point à leur conversation, haussait les épaules de toutes ces simagrées. Il feignait de ne pas remarquer les insolences d'Amalia, qui, tout en affectant de l'éviter avec mépris, faisait tout pour qu'il l'abordât, afin qu'elle pût lui dire ce qu'elle avait sur le cœur. Christophe n'était touché que par l'attitude de Rosa. La petite le condamnait plus durement que tous les siens. Non que ce nouvel amour de Christophe lui parut détruire les dernières chances qu'elle avait d'être aimée de lui. Elle savait qu'elle n'en avait aucune. Bien qu'elle continuât peut-être d'espérer, elle espérait toujours. Mais elle s'était fait de Christophe une idole, et cette idole s'écroulait. C'était la pire douleur. Oui, une douleur plus cruelle, dans l'innocence et l'honnêteté de son cœur, que d'être dédaignée et oubliée par lui. Élevée d'une façon puritaine, dans une morale étroite, à laquelle elle croyait passionnément, ce qu'elle avait appris de Christophe ne l'avait pas seulement désolée, mais écœurée. Elle avait déjà souffert quand il aimait Sabine. Elle avait commencé de perdre certaines de ses illusions sur son héros. Que Christophe pût aimer une âme aussi médiocre lui semblait inexplicable et peu glorieux. Mais du moins, cet amour était pur, et Sabine n'en était pas indigne. Enfin, la mort avait passé là-dessus et avait tout sanctifié. Mais qu'aussitôt après, Christophe aima une autre, et quelle autre ? C'était bas, c'était odieux. Elle en venait à prendre la défense de la morte contre lui. Elle ne lui pardonnait pas de l'avoir oublié. Hélas, il y pensait plus qu'elle, mais elle ne se doutait pas qu'il pût y avoir place, dans un cœur passionné, pour deux sentiments à la fois. Elle croyait qu'on ne peut rester fidèle au passé sans sacrifier le présent. Pure et froide, elle n'avait aucune idée de la vie, ni de Christophe. Tout lui paraissait devoir être pur, étroit et soumis au devoir comme elle. Modeste dans toute son âme et de toute sa personne, elle n'avait qu'un orgueil, celui de la pureté. Elle l'exigeait de soi et des autres. Que Christophe se fût ainsi abaissé, elle ne le lui pardonnait pas. Elle ne le lui pardonnerait jamais. Christophe essaya de lui parler, sinon de s'expliquer avec elle. Que lui aurait-il dit? Qu'aurait-il pu dire à une fillette puritaine et naïve comme elle? Il eût voulu l'assurer qu'il était son ami, qu'il tenait à son estime, et qu'il y avait encore droit. Il voulait empêcher qu'elle s'éloignât absurdement de lui. Mais Rosa le fuyait avec un silence sévère, et il sentait qu'elle le méprisait. Il en avait chagrin et colère. Il avait conscience qu'il ne méritait pas ce mépris, et pourtant il finissait par en être bouleversé. Il se jugeait coupable. Les reproches les plus amers, c'était lui qui se les faisait, en pensant à Sabine. Il se torturait. « Mon Dieu, comment est-ce possible? Comment est-ce que je suis ?» Mais il ne pouvait pas résister au courant qui l'emportait. Il pensait que la vie est criminelle, et il fermait les yeux pour ne pas le voir et vivre. Il avait un tel besoin de vivre, d'être heureux, d'aimer, de croire. Non, il n'y avait rien de méprisable dans son amour. Il savait qu'il pouvait n'être pas sage, pas intelligent, pas très heureux même en aimant Ada. Mais qu'y avait-il là de vil? À supposer, il s'efforçait d'en douter, que Ada n'eût pas une très grande valeur morale, en quoi l'amour qu'il avait pour elle en était-il moins pur? L'amour est dans celui qui aime, non dans celui qu'on aime. Tant vaut celui qui aime, tant vaut l'amour. Tout est pur chez les purs, tout est pur chez les forts et chez ceux qui sont saints. L'amour qui part certains oiseaux de leur plus belle couleur fait sortir des âmes honnêtes ce qu'elles ont de plus noble. Le désir de ne montrer à l'autre rien qui ne soit digne de lui fait qu'on ne prend plus plaisir qu'aux pensées et aux actes qui sont en harmonie avec la belle image que l'amour a sculptée. Et le bain de jeunesse où l'âme se retrempe, le rayonnement sacré de la force et de la joie, sont beaux et bienfaisants et rendent plus grand le cœur. Que ses amis le méconnussent, le remplissait d'amertume. Mais le plus grave, c'était que sa mère elle-même commençait à se tourmenter. La bonne femme était loin de partager l'étroitesse de principe des Fogel. Elle avait vu de trop près les vraies tristesses pour chercher à en inventer d'autres. Humble, brisée par la vie, en ayant reçu peu de joie, et lui en ayant encore moins demandé, résignée à ce qui venait, et n'essayant pas de le comprendre, elle se fut bien gardée de juger et de censurer les autres. Elle ne s'en croyait pas le droit. Elle se trouvait trop bête pour prétendre qu'il se trompait quand il ne pensait pas comme elle. Il lui eût paru ridicule de vouloir imposer aux gens les règles inflexibles de sa morale et de sa foi. Au reste, sa morale et sa foi étaient toutes d'instinct. Pieuse et pure pour son compte, elle fermait les yeux sur la conduite des autres, avec l'indulgence du peuple pour certaines fautes ou certaines faiblesses. C'était là un des griefs qu'avait jadis contre elle son beau-père Jean-Michel. Elle ne faisait pas assez de distinction entre les personnes honorables et celles qui ne l'étaient point. Elle ne craignait pas, dans la rue ou au marché, de s'arrêter pour serrer la main et parler amicalement à d'aimables filles, fort connues du quartier, et que les femmes, comme il faut, devaient feindre d'ignorer. Elle s'en remettait à Dieu de distinguer le mal du bien et de punir ou de pardonner. Elle ne demandait aux autres qu'un peu de cette affectueuse sympathie qui est si nécessaire pour s'alléger mutuellement la vie. Pourvu qu'on fût bon, c'était l'essentiel pour elle. Mais, depuis qu'elle habitait chez les Fogel, on était en train de la changer. L'esprit dénigrant de la famille avait fait d'elle d'autant plus facilement sa proie qu'elle était alors abattue et sans force pour résister. Amalia s'était emparée d'elle, et du matin au soir, dans ces longs tête-à-tête où les deux femmes travaillaient ensemble et où Amalia seule parlait, Louisa, passive et écrasée, prenait à son insu l'habitude de tout juger et de tout critiquer. Madame Fogel ne manqua pas de lui dire ce qu'elle pensait de la conduite de Christophe. Le calme de Louisa l'irritait. Elle trouvait indécent que Louisa se préoccupât si peu de ce qui les mettait tous hors d'eux. Elle ne fut pas contente qu'elle n'eût réussi à la troubler tout à fait. Christophe s'en aperçut. Louisa n'osait lui faire de reproches, mais c'était chaque jour des observations timides, inquiètes, insistantes. et comme, impatienté, il y répondit brusquement, elle ne lui dit plus rien, mais il continuait de lire le chagrin dans ses yeux. Et quand il revenait, il voyait parfois qu'elle avait pleuré. Il connaissait trop sa mère pour ne pas être sûr que ses inquiétudes ne lui venaient pas d'elle, et il savait d'où elles lui venaient. Il résolut d'en finir. Un soir que Louisa, ne pouvant plus retenir ses larmes, s'était levée de table au milieu du souper, sans que Christophe pût apprendre ce qui la désolait, il descendit l'escalier 4 à 4 et alla frapper à la porte des Fogel. Il bouillait de colère. Il n'était pas seulement indigné de la façon dont Madame Fogel agissait avec sa mère, il avait à se venger de ce qu'elle avait soufflé à Rosa contre lui, de ses tracasseries contre Sabine, de tout ce qu'il avait dû tolérer d'elle depuis des mois. Depuis des mois, il portait un fait de rancune accumulée dont il avait hâte de se décharger. Il fit irruption chez Madame Fogel, et d'une voix qui voulait être calme, mais qui tremblait de fureur, il lui demanda ce qu'elle avait bien pu raconter à sa mère pour la mettre dans un tel état. Amalia le prit fort mal. Elle répondit qu'elle disait ce qu'il lui plaisait, qu'elle n'avait à rendre compte de sa conduite à personne, à lui moins qu'à personne. Et, saisissant l'occasion de placer le discours qu'elle avait préparé, elle ajouta que si Louisa était malheureuse, il n'avait pas à en chercher d'autre raison que sa propre conduite, qui était une honte pour lui et un scandale pour tous. Christophe n'attendait qu'une attaque pour attaquer. Il cria avec emportement que sa conduite ne regardait que lui, qu'il se souciait fort peu qu'elle plût ou ne plût pas à Madame Fogel, que si celle-ci voulait s'en plaindre, elle s'en plaignit à lui, qu'elle pouvait bien lui dire tout ce qu'elle voudrait, ce serait comme s'il pleuvait, mais qu'il lui défendait. Elle entendait bien, il lui défendait d'en rien dire à sa mère, et que c'était une lâcheté de s'attaquer à une pauvre vieille femme malade. Madame Fogel poussa les hauts cris. Jamais personne n'avait osé lui parler sur ce ton. Elle dit qu'elle ne se laisserait pas faire la leçon par un polisson, et dans sa propre maison. Et elle le traita d'une façon outrageante. Au bruit de la scène, les autres arrivèrent, sauf Fogel qui fuyait tout ce qui pouvait être une cause de trouble pour sa santé. Le vieux Euler, pris à témoin par Amalia indignée, pria sévèrement Christophe de se dispenser à l'avenir de ses observations et de ses visites. Il dit qu'il n'avait pas besoin de lui pour savoir ce qu'il devait faire, qu'il faisait leur devoir, qu'il le ferait toujours. Christophe déclara qu'il partait et qu'il ne remettrait plus les pieds chez eux. Il ne partit point pourtant avant de s'être soulagé de ce qu'il avait encore à leur dire sur le compte de ce fameux devoir, qui était devenu pour lui un ennemi personnel. Il dit que ce devoir serait capable de lui faire aimer le vice. C'était des gens comme eux qui décourageaient du bien par leur application à le rendre maussade. Ils étaient cause de la séduction qu'on trouve, par contraste, chez ceux qui sont malhonnêtes, mais aimables et riants. C'est profaner le nom de devoir que l'appliquer à tout, aux plus niaises corvées, aux actes indifférents, avec une rigueur raide et rogue qui finit par assombrir et empoisonner la vie. Le devoir est exceptionnel. Il faut le réserver pour les moments de réel sacrifice, et ne pas couvrir de ce nom sa propre mauvaise humeur et le désir qu'on a d'être désagréable aux autres. Il n'y a pas de raison, parce qu'on a la sottise ou la disgrâce d'être triste, pour vouloir que tous le soient, et pour imposer à tous son régime d'infirme. La première des vertus, c'est la joie. Il faut que la vertu ait la mine heureuse, libre, sans contrainte. Il faut que celui qui fait le bien se fasse plaisir à lui-même. Mais ce prétendu devoir perpétuel, cette tyrannie de maître d'école, ce ton criard, ces discussions oiseuses, cet ergotage aigre et puéril, ce bruit, ce manque de grâce, cette vie dépouillée de tout charme, de toute politesse, de tout silence, ce pessimisme mesquin qui ne laisse rien perdre de ce qui peut rendre l'existence plus pauvre qu'elle n'est, cette inintelligence orgueilleuse qui trouve plus facile de mépriser les autres que de les comprendre, toute cette morale bourgeoise, sans grandeur, sans bonheur, sans beauté, sont odieux et malfaisants. Ils font paraître le vice plus humain que la vertu. Ainsi pensait Christophe, et dans son désir de blesser qu'il avait blessé, il ne s'apercevait pas qu'il était aussi injuste que ceux dont il parlait. Sans doute, ces pauvres gens étaient à peu près tels qu'il les voyait. Mais ce n'était pas leur faute, c'était celle de la vie ingrate, qui avaient fait leurs figures, leurs gestes et leurs pensées ingrates. Ils avaient subi les déformations de la misère, non de la grande misère qui tombe d'un seul coup et qui tue ou qui forge, mais de la mauvaise chance, constamment répétée, de la petite misère qui s'épand goutte à goutte du premier jour au dernier. Grande tristesse, car sous ces enveloppes rugueuses, que de trésors en réserve, de droiture, de bonté, de silencieux héroïsme, toute la force d'un peuple, toute la sève de l'avenir. Christophe n'avait pas tort de croire que le devoir est exceptionnel. Mais l'amour ne l'est pas moins. Tout est exceptionnel. Tout ce qui vaut quelque chose n'a pas de pire ennemi, non pas que ce qui est mal, les vices ont leur prix, mais que ce qui est habituel. L'ennemi mortel de l'âme, c'est l'usure des jours. Ada commençait à se lasser. Elle n'était pas assez intelligente pour trouver à renouveler son amour dans une nature abondante comme celle de Christophe. Ses sens et sa vanité avaient extrait de cet amour tout le plaisir qu'elle y pouvait trouver. Il ne lui restait plus que celui de le détruire. Elle avait cet instinct secret, commun à tant de femmes, même bonnes, à tant d'hommes, même intelligents, qui ne créent pas des œuvres, des enfants, de l'action, n'importe quoi, de la vie, et qui ont pourtant trop de vie pour supporter, apathiques et résignés, leur inutilité. Ils voudraient que les autres fussent inutiles comme eux, et ils y travaillent de leur mieux. Parfois, c'est malgré eux, et quand ils s'aperçoivent de ce désir criminel, ils le repoussent avec indignation. Mais souvent, ils le caressent, et ils s'appliquent, dans la mesure de leur force, les uns modestement dans leur petit cercle intime, les autres tout à fait en grand, sur de vastes publics, à détruire tout ce qui vit, tout ce qui aime à vivre, tout ce qui mérite de vivre. Le critique qui s'acharne à rabaisser à sa taille les grands hommes et les grandes pensées, et la fille qui s'amuse à avilir ses amants, sont deux bêtes malfaisantes de la même sorte, mais la seconde est plus aimable. Ada eut donc voulu corrompre un peu Christophe, afin de l'humilier. À la vérité, elle n'était pas de force. Il y eût fallu plus d'intelligence, même dans la corruption. Elle le sentait, et ce n'était pas un de ses moindres griefs cachés contre Christophe, que son amour ne pût lui faire aucun mal. Elle ne s'avouait pas le désir qu'elle avait de lui en faire. Elle ne lui en eût peut-être pas fait, si elle avait pu. Mais elle trouvait impertinent de ne le point pouvoir. C'est manquer d'amour envers une femme que de ne pas lui laisser l'illusion de son pouvoir, bien ou malfaisant, sur celui qu'il aime. Et c'est la pousser irrésistiblement à en faire l'épreuve. Christophe n'y prenait pas garde. Lorsque Ada lui demandait par jeu « Laisserais-tu bien la musique pour moi ?» bien qu'elle n'en eût aucune envie, il répondait franchement « Oh, cela, ma petite, ni toi ni personne n'y peuvent rien, j'en ferai toujours. »« Et tu prétends m'aimer ?» s'écriait-elle, dépitée. Elle haïssait cette musique, d'autant plus qu'elle n'y comprenait rien, et qu'il lui était impossible de trouver le joint pour atteindre cet ennemi invisible et pour blesser Christophe dans sa passion. Si elle essayait d'en parler avec mépris ou de juger dédaigneusement les compositions de Christophe, il riait aux éclats. Et malgré son exaspération, Ada prenait le parti de se taire, car elle se rendait compte qu'elle était ridicule. Mais s'il n'y avait rien à faire de ce côté, elle avait découvert chez Christophe un autre point faible où il lui était plus facile d'atteindre. C'était sa foi morale. En dépit de sa brouille avec les Fogel et malgré l'enivrement de son adolescence, Christophe avait conservé une pudeur instinctive, un besoin de pureté, dont il n'avait pas conscience, mais qui devait d'abord frapper, attirer et charmer, puis amuser, puis impatienter, puis irriter jusqu'à la haine une femme comme Ada. Elle ne s'y attaquait pas de front. Elle demandait insidieusement « M'aimes-tu ? » « Bien sûr. » « Combien m'aimes-tu ? » « Autant qu'on peut aimer. » « Ce n'est pas beaucoup. Enfin, qu'est-ce que tu ferais pour moi ? » ?»« Tout ce que tu voudras. » »« Ferais-tu une malhonnêteté ? » ?»« Singulière façon de t'aimer. » »« Il ne s'agit pas de cela. Le ferais-tu ? » ?»« Ce n'est jamais nécessaire. » »« Mais si moi, je le voulais ?» Tu aurais tort. Peut-être. Le ferais-tu ? Il voulait l'embrasser, mais elle le repoussait. Le ferais-tu, oui ou non ? Non, mon petit. Elle lui tournait le dos, furieuse. Tu n'aimes pas. Tu ne sais pas ce que c'est qu'aimer. C'est bien possible, disait-il avec bonhomie. Il savait bien qu'il était capable, tout comme un autre, de commettre, dans un instant de passion, une sottise, une malhonnêteté, peut-être, et, qui sait, davantage. Mais il eût trouvé honteux de s'en vanter froidement et dangereux de l'avouer à Ada. Un instinct l'avertissait que la chère ennemie se tenait à l'affût et prenait acte de ses moindres propos. Il ne voulait pas lui donner prise contre lui. D'autres fois, elle revenait à la charge, elle lui demandait « M'aimes-tu parce que tu m'aimes ou parce que je t'aime ?»«
Parce que je t'aime. »
« Alors, si je ne t'aimais pas, tu m'aimerais encore ?»«
Oui. »
« Et si j'aimais un autre, tu m'aimerais toujours ?»«
Ah, cela, je ne sais pas. Je ne crois pas. En tout cas, tu serais la dernière personne à qui j'irais le dire. »«
Qu'est-ce qu'il y aurait de changé ?»«
Beaucoup de choses. Moi, peut-être. Sûrement, toi. »
« Qu'est-ce que cela fait que moi, je change ?»«
Cela fait tout. Je t'aime comme tu es. Si tu deviens une autre, je ne réponds plus de t'aimer. »«
Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Qu'est-ce que ces ergotages ? On aime ou on n'aime pas. Si tu m'aimes, tu dois m'aimer tel que je suis, quoi que je fasse, toujours.
Ce serait aimer comme une bête.
C'est comme cela que je veux être aimé. »
Alors tu t'es trompé, dit-il en plaisantant. Je ne suis pas ce que tu cherches. Je le voudrais que je ne le pourrais pas. Et je ne le veux pas.
Tu es bien fier de ton intelligence. Tu aimes mieux ton intelligence que moi.
Mais c'est toi que j'aime, ingrate, plus que tu ne t'aimes toi-même. Je t'aime d'autant plus que tu es plus belle et meilleure.
Tu es un maître d'école, dit-elle avec dépit.
Que veux-tu ? J'aime ce qui est beau. Ce qui est laid me dégoûte.
Même chez moi ?
Surtout chez toi.
Elle tapa rageusement du pied.
Je ne veux pas être jugée.
Plains-toi donc de ce que je te juge et de ce que je t'aime, dit-il tendrement pour l'apaiser. Elle se laissa prendre dans ses bras et daigna même sourire et permettre qu'il l'embrassât. Mais après un moment, quand il croyait qu'elle avait oublié, elle demanda, inquiète, « Qu'est-ce que tu trouves de laid en moi ?» Il se garda bien de le lui dire. Il répondit lâchement, « Je ne trouve rien de laid. » Elle réfléchit un moment, sourit et dit, « Écoute un peu, Chrisley, tu dis que tu m'aimes, tu dis que tu n'aimes pas le mensonge. »
« Je le méprise. »«
Tu as raison, dit-elle, je le méprise aussi. Du reste, je suis bien tranquille, je ne mens jamais. » Il la regarda, elle était sincère. Cette inconscience le désarmait. Alors, continua-t-elle en lui passant les bras autour du cou, « Pourquoi m'en voudrais-tu si j'aimais un autre, et si je te le disais ?»«
Ne me tourmente pas toujours. »«
Je ne te tourmente pas. Je ne dis pas que j'aime un autre. Je dis même que non. » Mais plus tard, si jamais, eh bien, n'y pensons pas. Moi, je veux y penser. Tu ne m'en voudrais pas ?
Tu ne peux pas m'en vouloir.
Je ne t'en voudrais pas, je te quitterai, voilà tout.
Me quitter ? Pourquoi donc, si je t'aimais encore ?
Tout en aimant un autre ?
Sans doute, cela arrive.
Eh bien, cela n'arrivera pas pour nous.
Pourquoi ?
Parce que le jour où tu aimeras un autre, je ne t'aimerai plus, mon petit.
Plus du tout, plus du tout.
Tout à l'heure, tu disais peut-être.
Ah, tu vois, tu n'aimes pas.
Soit, cela vaut mieux pour toi.
Parce que si je t'aimais quand tu aimerais un autre, cela pourrait mal tourner pour toi, moi et l'autre.
Voilà, tu es fou maintenant. Alors je suis condamné à rester avec toi toute ma vie?
Tranquillise-toi, tu es libre.
Tu me quitteras quand tu voudras.
Seulement, ce ne sera pas au revoir, ce sera adieu.
Mais si je continue de t'aimer, moi?
Quand on s'aime, on se sacrifie l'un à l'autre.
Eh bien, sacrifie-toi.
Il ne put s'empêcher de rire de son égoïsme. Et elle rit aussi.
Le sacrifice d'un seul, dit-il, ne fait que l'amour d'un seul.
Pas du tout. Il fait l'amour des deux. Je t'aimerai beaucoup plus si tu te sacrifies pour moi.
Et pense donc, Chrisley, que de ton côté, tu m'aimeras beaucoup, puisque tu te seras sacrifié.
Tu seras très heureux.
Il riait, content de se donner le change sur le sérieux de leur dissentiment. Il riait, et il la regardait. Au fond, comme elle le disait, elle n'avait nul désir de quitter maintenant Christophe. S'il l'irritait et l'ennuyait souvent, elle savait ce que valait un dévouement comme le sien. Et elle n'aimait personne autre. Elle parlait ainsi par jeu, moitié parce qu'elle savait que cela lui était désagréable, moitié parce qu'elle trouvait plaisir à jouer avec des pensées douteuses et malpropres, comme un enfant qui se délecte à tripoter dans l'eau sale. Il le savait, il ne lui en voulait pas.
mais il était las de ces discussions malsaines, de la lutte sourde engagée contre cette nature incertaine et trouble qu'il aimait, qui peut-être l'aimait. Il était las de l'effort qu'il devait faire pour se duper sur son compte, las parfois à pleurer. Il pensait « Pourquoi ? Pourquoi est-elle ainsi ? Pourquoi est-on ainsi ?» Comme la vie est médiocre. En même temps, il souriait en regardant le joli visage qui se penchait vers lui, ses yeux bleus, son teint de fleurs, sa bouche rieuse et bavarde, un peu sotte, entr'ouverte sur l'éclat frais de sa langue et de ses dents humides. Leurs lèvres se touchaient presque, et il la regardait comme de loin, de très loin, d'un autre monde. Il la voyait s'éloigner de plus en plus, se perdre dans un brouillard. Et puis, il ne la voyait plus, il ne l'entendait plus. Il tombait dans une sorte d'oubli souriant, où il pensait à sa musique, à ses rêves, à mille choses étrangères à Ada. Il entendait un air, il composait tranquillement. Ah, la belle musique, si triste, mortellement triste, et pourtant bonne, aimante. Ah, que cela fait du bien. C'est cela, le reste n'était pas vrai. On le secouait par le bras. Une voix lui criait, « Eh bien, qu'est-ce que tu as ? Décidément, tu es fou. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme cela ? Pourquoi ne réponds-tu pas ?» Il revoyait les yeux qui le regardaient. « Qui était-ce ? Ah oui !» Il soupirait. Elle l'examinait. Elle cherchait à savoir à quoi il pensait. Elle ne comprenait pas. Mais elle sentait qu'elle avait beau faire, elle ne le tenait pas tout entier. Il y avait toujours une porte par où il pouvait s'échapper. Elle s'irritait en secret. « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» lui demanda-t-elle une fois, au sortir d'un de ses voyages étranges dans une autre vie. Il se passa la main sur les yeux. Il sentit qu'ils étaient mouillés. « Je ne sais pas, » dit-il. « Pourquoi ne réponds-tu pas ? Voilà trois fois que je te dis la même chose. »« Que veux-tu ? » demanda-t-il doucement. Elle reprit ses sujets de discussion saugrenus. Il fit un geste de lassitude. « Oui, » dit-elle enfin, « je finis. Plus qu'un mot. » Et elle repartit de plus belle. Christophe se secoua avec colère. « Veux-tu me laisser tranquille avec tes saletés ?»« Je plaisante. Trouve des sujets plus propres. »« Discute au moins. Dis pourquoi cela te déplaît. » »« Point du tout. Il n'y a pas à discuter pourquoi le fumier pue. Il pue, et voilà tout. Je me bouche le nez et je m'en vais. » Il s'en allait furieux. Il se promenait à grands pas, respirant l'air glacé. Mais elle recommençait une fois, deux fois, dix fois. Elle mettait sur le tapis tous les sujets qui pouvaient choquer et blesser sa conscience. Il pensait que ce n'était là qu'un jeu malsain de fille neurasthénique qui s'amusait à l'agacer. Il haussait les épaules ou feignait de ne pas l'écouter. Il ne la prenait pas au sérieux. Il n'en avait pas moins envie parfois de la jeter par la fenêtre, car la neurasthénie et les neurasthéniques étaient fort peu de son goût. Mais il lui suffisait de 10 minutes loin d'elle pour avoir oublié tout ce qui lui déplaisait. Il revenait à Ada avec une provision d'espoir et d'illusions nouvelles. Il l'aimait. L'amour est un acte de foi perpétuel. Que Dieu existe ou non, cela n'importe guère. On croit parce qu'on croit. On aime parce qu'on aime. Il n'y faut pas tant de raisons. Après la scène que Christophe avait faite à Fogel, il était devenu impossible de rester dans la maison, et Louisa avait dû chercher un autre logement pour son fils et pour elle. Un jour, le plus jeune frère de Christophe, Ernst, dont on n'avait plus de nouvelles depuis longtemps, tomba brusquement chez eux. Il était sans place, s'étant fait chasser successivement de toutes celles qu'il avait essayées. Sa bourse était vide et sa santé délabrée. Aussi avait-il jugé bon de venir se refaire dans la maison maternelle. Ernst n'était en mauvais termes avec aucun de ses deux frères. Il était peu estimé des deux, et il le savait. Mais il ne leur en voulait pas, car cela lui était indifférent. Il ne lui en voulait pas non plus. C'eût été peine perdue. Tout ce qu'on lui disait glissait sur lui, sans laisser aucune trace. Il souriait de ses jolis yeux câlins, tâchait de prendre un air contrit, pensait à autre chose, approuvait, remerciait, et finissait toujours par extorquer de l'argent à l'un ou l'autre de ses frères. En dépit de lui-même, Christophe avait de l'affection pour cet aimable drôle, qui, de traits, ressemblait, comme lui, plus que lui, à leur père Melchior. Grand et fort comme Christophe, il avait une figure régulière, l'air franc, les yeux clairs, un nez droit, une bouche riante, de belles dents et des manières caressantes. Quand Christophe le voyait, il était désarmé, et il ne lui faisait pas la moitié des reproches qu'il avait préparés. Au fond, il éprouvait une sorte de complaisance maternelle pour ce beau garçon, qui était de son sang, et qui, physiquement du moins, lui faisait honneur. Il ne le croyait pas mauvais, et Ernst n'était point sot. Sans culture, il n'était pas sans esprit. Il n'était même pas incapable de s'intéresser aux choses de l'esprit. Il goûtait une jouissance à entendre de la musique, et sans comprendre celle de son frère, il l'écoutait curieusement. Christophe, qui n'était pas gâté par la sympathie des siens, avait eu plaisir à l'apercevoir à certains de ses concerts. Mais le talent principal de Ernst était la connaissance qu'il avait du caractère de ses deux frères et son habileté à en jouer. Christophe avait beau savoir son égoïsme et son indifférence, il avait beau voir que Ernst ne pensait à sa mère et à lui que quand il avait besoin d'eux, il se laissait toujours reprendre par ses façons affectueuses, et il était bien rare qu'il lui refusât rien. Il le préférait de beaucoup à son autre frère, Rodolphe, qui était rangé et correct, appliqué à ses affaires, hautement moral, qui ne demandait pas d'argent, qui n'en eût pas donné non plus, et qui venait voir sa mère régulièrement tous les dimanches, pendant une heure, ne parlait que de lui, se vantait sa maison et tout ce qui le concernait, ne s'informait pas des autres, ne s'y intéressait pas, et s'en allait, l'heure sonnant, satisfait du devoir accompli. Celui-là, Christophe ne pouvait le souffrir. Il s'arrangeait pour être sorti à l'heure où Rodolphe venait. Rodolphe le jalousait. Il méprisait les artistes, et les succès de Christophe lui étaient pénibles. Il ne laissait pas cependant de profiter de leur petite notoriété dans les milieux commerçants qu'il fréquentait. Mais jamais il n'en disait un mot à sa mère ni à Christophe. Il feignait de les ignorer. Par contre, il n'ignorait jamais le moindre événement désagréable qui arrivait à Christophe. Christophe méprisait ses petitesses et feignait de ne point les remarquer. Mais ce qui lui eût été plus sensible, et ce qu'il n'eût jamais pensé, c'est qu'une partie des renseignements malveillants que Rodolphe avait sur lui venait de Ernst. Le petit gueux faisait fort bien la différence de Christophe et de Rodolphe. Nul doute qu'il ne reconnut la supériorité de Christophe, et que peut-être même il n'eut une sympathie un peu ironique pour sa candeur. Mais il se gardait bien de n'en pas profiter, et tout en méprisant les mauvais sentiments de Rodolphe, il les exploitait honteusement. Il flattait sa vanité et sa jalousie, acceptait ses rebuffades avec déférence, et le tenait au courant des potins scandaleux de la ville, en particulier de tout ce qui concernait Christophe, dont il était toujours merveilleusement informé. Il en arrivait à ses fins, et Rodolphe, malgré son avarice, se laissait carotter par Ernst comme Christophe. Ainsi Ernst se servait et se moquait des deux, impartialement, aussi tous deux l'aimaient. Malgré toutes ses roueries, Ernst était dans un piteux état quand il se présenta chez sa mère. Il venait de Munich, où il avait trouvé, et suivant son habitude, perdu presque aussitôt sa dernière place. Il avait dû faire à pied la plus grande partie du chemin par des pluies torrentielles, et couchant Dieu sait tout. Il était couvert de boue, déchiré, semblable à un mendiant, et toussait lamentablement, car il avait pris en route une mauvaise bronchite. Aussi Louisa fut bouleversée, et Christophe courut à lui quand ils le virent entrer. Ernst, qui avait la larme facile, ne manqua pas d'user de cet effet, et ce fut un attendrissement général. Ils pleurèrent tous trois dans les bras l'un de l'autre. Christophe donna sa chambre, on bassina le lit, on y coucha le malade, qui semblait prêt de rendre l'âme. Louisa et Christophe s'installèrent à son chevet et se relayèrent pour le veiller. Il fallut un médecin, des remèdes, un bon feu dans la chambre, une nourriture spéciale. Il fallut songer ensuite à l'habiller des pieds à la tête. Linge, chaussures, vêtements, tout était à renouveler. Ernst se laissait faire. Louisa et Christophe se saignaient aux quatre membres pour parer aux dépenses. Ils étaient fort gênés en ce moment. Le nouvel emménagement, un logement plus cher, quoique aussi incommode, moins de leçons pour Christophe, et bien plus de dépenses. Ils arrivaient tout juste à joindre les deux bouts. Ils recoururent aux grands moyens. Christophe aurait pu, sans doute, s'adresser à Rodolphe, qui était plus que lui en état de venir en aide à Ernst. Mais il ne le voulait pas. Il mettait son point d'honneur à secourir seul son frère. Il s'y croyait tenu en sa qualité de frère aîné, et parce qu'il était Christophe. En rougissant de honte, il dut accepter, rechercher à son tour une offre qu'il avait rejetée avec indignation 15 jours avant, la proposition qu'un intermédiaire lui avait faite de la part d'un riche amateur inconnu qui voulait acheter une œuvre musicale pour la donner sous son nom. Louisa se loua la journée pour repriser du linge. Ils se cachaient l'un à l'autre leurs sacrifices. Ils se mentaient au sujet de l'argent qu'ils rapportaient au logis. Ernst, convalescent, pelotonné au coin du feu, avoua un jour, entre deux quintes de tout, qu'il avait quelques dettes. On les paya. Personne ne lui en fit un reproche. Ce n'eût pas été généreux envers un malade et un enfant prodigue qui revenait repentant. Car Ernst semblait transformé par les épreuves et par la maladie. Il parlait, avec des larmes dans la voix, de ses erreurs passées, et Louisa, l'embrassant, le suppliait de ne plus y penser. Il était caressant, il avait toujours su enjôler sa mère par ses démonstrations de tendresse. Christophe, jadis, en avait été un peu jaloux. À présent, il trouvait naturel que le plus jeune fils, et le plus faible, fût aussi le plus aimé. Lui-même, malgré le peu de différence d'âge, le considérait presque comme un fils, plutôt que comme un frère. Ernst lui témoignait un grand respect. Il faisait allusion, quelquefois, aux charges que s'imposait Christophe, aux sacrifices d'argent. Mais Christophe ne le laissait pas continuer, et Ernst se résignait à les reconnaître d'un regard humble et affectueux. Il approuvait les conseils que Christophe lui donnait. Il semblait disposé à changer de vie et à travailler sérieusement dès qu'il serait rétabli. Il se rétablissait, mais la convalescence était longue. Le médecin avait déclaré que sa santé, dont il avait abusé, aurait besoin de ménagement. Il continuait donc à rester chez sa mère, à partager le lit de Christophe, à manger de bon appétit le pain que son frère gagnait, et les petits plats friands que Louisa s'ingéniait à préparer pour lui. Il ne parlait point de partir. Louisa et Christophe ne lui en parlaient pas non plus. Ils étaient trop heureux d'avoir retrouvé le fils, le frère qu'ils aimaient. Peu à peu, dans les longues soirées qu'il passait avec Ernst, Christophe se laissa aller à lui parler plus intimement. Il avait besoin de se confier à quelqu'un. Ernst était intelligent, il avait l'esprit prompt et comprenait, ou semblait comprendre, à demi-mot. Il y avait plaisir à causer avec lui. Pourtant, Christophe n'osait rien dire de ce qui lui tenait le plus au cœur, de son amour. Il était retenu par une sorte de pudeur. Ernst, qui savait tout, ne lui en montrait rien. Un jour, Ernst, tout à fait guéri, profita d'une après-midi de soleil pour flâner le long du Rhin. En passant devant une bruyante auberge, un peu hors de la ville, où l'on venait danser et boire, le dimanche, il aperçut Christophe attablé avec Ada et Mira, qui faisaient grand tapage. Christophe le vit aussi et rougit. Ernst joua la discrétion et passa sans l'aborder. Christophe fut fort gêné de cette rencontre. Elle lui faisait sentir plus vivement dans quelle société il se trouvait, et il lui était pénible que son frère l'y vît. Non seulement parce qu'il perdait désormais le droit de juger la conduite de Ernst, mais parce qu'il avait de ses devoirs de frère aîné une idée très haute, très naïve, un peu archaïque, et qui eût semblé ridicule à beaucoup de gens. Il pensait qu'en manquant à ses devoirs, comme il faisait, il se dégradait à ses propres yeux. Le soir, quand ils se retrouvèrent dans la chambre commune, il attendit que Ernst fît une allusion à ce qui s'était passé. Mais Ernst se taisait prudemment et attendait aussi. Alors, tandis qu'il se déshabillait, Christophe se décida à parler de son amour. Il était si troublé qu'il n'osait pas regarder Ernst, et par timidité, il affectait la brusquerie dans sa façon de parler. Ernst ne l'aidait en rien. Il restait muet, ne le regardait pas non plus, mais ne l'en voyait pas moins. Et il ne perdait rien de ce que la gaucherie de Christophe et ses paroles maladroites avaient de comique. À peine si Christophe osa nommer Ada, et le portrait qu'il en fit aurait pu convenir aussi bien à toutes les femmes aimées. Mais il parla de son amour, et s'abandonnant peu à peu au flot de tendresse dont son cœur était plein, il dit quel bienfait c'était d'aimer, combien il était misérable avant d'avoir rencontré cette lumière dans sa nuit, et que la vie n'était rien sans un cher et profond amour. L'autre écoutait gravement. Il répondit avec tact, ne fit aucune question. Mais une poignée de main émue montra qu'il sentait comme Christophe. Ils échangèrent leurs pensées sur l'amour et la vie. Christophe était heureux d'être si bien compris. Ils s'embrassèrent fraternellement avant de s'endormir. Christophe prit l'habitude, bien qu'avec beaucoup de timidité toujours et une grande réserve, de confier son amour à Ernst, dont la discrétion le rassurait. Il lui laissait entrevoir ses inquiétudes au sujet de Ada, mais jamais il ne l'accusait. Il s'accusait lui-même, et les larmes aux yeux, il déclarait qu'il ne pourrait plus vivre s'il venait à la perdre. Il n'oubliait pas de parler de Ernst à Ada. Il louait son esprit et sa beauté. Ernst ne faisait pas d'avance à Christophe pour être présenté à Ada, mais il se renfermait mélancoliquement dans sa chambre et refusait de sortir, disant qu'il ne connaissait personne. Christophe se reprochait, le dimanche, de continuer ses parties de campagne avec Ada, tandis que son frère restait à la maison. Cependant, il lui était pénible de n'être pas seul avec son ami, mais il s'accusait d'égoïsme, et il proposa à Ernst de venir avec eux. La présentation eut lieu à la porte de Ada, sur le palier de son étage. Ernst et Ada se saluèrent cérémonieusement. Ada sortait, suivie de son inséparable Mira, qui, en voyant Ernst, eut un petit cri de surprise. Ernst sourit, s'approcha et embrassa Mira, qui sembla le trouver tout naturel. « Comment, vous vous connaissez ?» demanda Christophe, stupéfait. « Sans doute, » dit Mira en riant. « Depuis quand ?»« Il y a beau temps. » « Et tu le savais ?» demanda Christophe à Ada. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?»« Si tu crois que je connais tous les amants de Mira, » dit Ada en haussant les épaules. Mira releva le mot et feignit par jeu de se fâcher. Christophe n'en put jamais savoir davantage. Il était attristé. Il lui semblait que Ernst, que Mira, que Ada avaient manqué de franchise, bien qu'à vrai dire, il n'eût à leur reprocher aucun mensonge. Mais il était bien difficile à croire que Mira, qui n'avait aucun secret pour Ada, lui eût fait mystère de celui-ci, et que Ernst et Ada ne se connussent pas déjà. Il les observa. Mais ils échangèrent seulement quelques paroles banales, et Ernst ne s'occupa plus que de Mira, tout le reste de la promenade. Ada, de son côté, ne parlait qu'à Christophe, et elle fut beaucoup plus aimable pour lui qu'à l'ordinaire. Dès lors, Ernst fut de toute leur partie. Christophe se fut bien passé de lui, mais il n'osait le dire. Ce n'est pas qu'il eût un autre motif de vouloir éloigner son frère que la honte de l'avoir pour compagnon de plaisir. Il était sans défiance. Ernst ne lui en donnait aucun sujet. Il paraissait épris de Mira, et il observait envers Ada une réserve polie, et même une affectation d'égard qui était presque déplacée. C'était comme s'il voulait reporter sur la maîtresse de son frère un peu du respect qu'il lui témoignait à lui-même. Ada ne s'en étonnait pas, et elle ne se surveillait pas moins. Ils faisaient de longues promenades ensemble. Les deux frères marchaient devant. Ada et Mira, riant et chuchotant, suivaient à quelques pas. Elles s'arrêtaient longuement pour causer, plantées au milieu de la route. Christophe et Ernst s'arrêtaient aussi pour les attendre. Christophe finissait par s'impatienter, il reprenait sa marche, mais il se retournait bientôt, avec dépit, en entendant Ernst rire et causer avec les deux bavardes. Il eût voulu savoir ce qu'ils disaient, mais quand ils arrivaient à lui, leur conversation s'arrêtait. « Qu'est-ce que vous avez donc toujours à comploter ensemble ? » demandait-il. Il répondait par une plaisanterie. Ils s'entendaient tous trois comme larrons en foire.